Pierre-Yves,
c'est de donner
aux bébés, malgré sa néotidie, la raison de maturité pour la mentalité, bien qu'ils soient effectivement très vulnérables et dépendants, lui laisser les possibilités de jouer pleinement sa part active dans le développement sur les enfants. Et là, quand vous parlez, je ressens ça très fort aujourd'hui. L'arrière-plan, par exemple, c'est pas simplement l'arrière-plan qui va construire le bébé, mais l'arrière-plan lui donne la possibilité d'exprimer quelque chose de ses forces actives, de son développement, et également des aspects de l'histoire.
Émile Pichler est analysé par Imre Hermann. Imre Hermann est l'ami de Sandor Eminder, qui est analysé par Ferenczi. Et Sandor Eminder émigre à Barcelone en 1934 à cause du nazisme. Et c'est Toscaïès qui va être son élève et qui va devenir le psychanalyste qui invente la psychothérapie institutionnelle. Donc le rapprochement entre l'Oxy et tout ce mouvement-là me paraît tout à fait évident.
Mais je pense que dans notre tableau matériel, on a des casiers à retravailler, en particulier à la charnière, justement, du clivage vertical et du clivage horizontal, aussi bien à la charnière préalable de l'espace du buste et de l'espace du torse. Et avec en particulier ce que moi j'aime beaucoup écrire, parce que je suis psychanalyste, l'identification corporelle ou fonction matérielle dans le côté dominant et l'identification au self dans le côté et là il y a il y a toute la sexualité et toute la bisexualité de ces formations qui se placent aussi et ça c'est vraiment très 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 fort quand on voit que la mère qui approche la cuillère ou la bouche de l'enfant et l'enfant qui approche sa main, tout ça. Et au moment où il décrit, c'est son côté gauche, son côté self, qui se déverse. Il y a un côté de lui qui représente presque l'intérieur de son corps, et le self, et le côté mère qui se fortifie dans l'identification aux fonctions. Bon, à ces deux charnières, je crois qu'on pourra en parler, il faut beaucoup observer. Aussi bien dans le développement que dans les récupérations des pathologies, là, quand le développement se reprend, on voit des tas de détails. Et je crois que c'est dans le détail, ensuite, tu es d'accord, qu'on peut tout à fait fignoler. Sinon, oui, c'est tout à fait passionnant et articulé avec ce qu'a dit Marie-Christine. Alors, l'importance du tonus. Le tonus, c'est la vie émotionnelle. Hein. Les travaux d'Ajoyera. Et puis, le dialogue tonico-émotionnel. Et quand Bullinger parle du dialogue émotionnel dès la vie prénatale entre l'hyperextension à la réaction d'éveil et l'obligation, parce que les muscles de la paroi intérieure ne sont pas assez forts. Il n'y a pas seulement la préparation à la sortie, il y a tout un dialogue là qui est là avant, bien avant, tu es d'accord, bien avant qu'il soit prêt à sortir, mais que c'est un plaisir. Et alors ce plaisir est très entretenu auto-érotiquement et dans tous les jeux d'enfants et tous les jeux de nourrice, le bateau sur l'eau, c'est ça, et puis les rocking chairs, c'est ça. Et puis je vous envoie écouter Armstrong dans son rocking chair extraordinaire. Faut envoyer les psychotiques écouter ça, eux avec un rocking chair, et je crois qu'avec une voix extraordinaire, Armstrong, ils peuvent faire des récupérations très, très rapides.
On va laisser la salle, vous posez des questions à tous les trois.
Je voulais juste faire une petite remarque au sujet de la maman d'Enrico et du travail qu'il a fait avec Christine Nazi. Moi, j'ai suivi le grand frère depuis qu'il avait 18 mois. Il va bien maintenant, on peut dire que. Enfin, il va plutôt pas mal, mais il a évidemment des traces de son histoire d'ici. Et j'ai vu la maman d'Enrico vraiment changer au fur et à mesure du travail, et que le bébé récupérait, avait moins mal. Et vraiment, cette maman qui parlait très très vite, qui n'avait pas le portage, etc., elle a vraiment maintenant une adaptation complètement naturelle à ce bébé, c'est vraiment. Alors que moi, je l'ai vu vraiment s'impliquer dans le traitement de son premier enfant, mais elle n'a jamais pu, avec son premier enfant, avoir les mêmes attitudes, alors que lui, il changeait beaucoup aussi. Donc, c'est pour dire combien je pense que le bébé, ce qu'il peut renvoyer, peut permettre à la maman de vraiment se construire en même temps que ce bébé-là. Et je n'en reviens pas de la qualité de cette maman, que j'ai connue par ailleurs extrêmement impliquée dans le traitement de son premier enfant, mais pas du tout avec les mêmes capacités, c'était pas possible. Il était un peu tard pour avoir des gestes beaucoup plus. Non.
C'est un libère, c'est la princesse, ancien pédopsychiatre des hôpitaux, et travaillant en IME, je vous dirai actuellement. Alors, le sens de ma question, c'est pour tous les quatre, enfin d'abord, merci à tous, pour tous les quatre, sur le théâtre de la bouche. Alors, je précise tout de suite la question, c'est que le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un organisateur interne qui se met en place très très tôt et qui va permettre justement les mécanismes de comodalisation. Ce que reprend Bullinger quand il nous dit pour que les deux parties du corps, je veux dire, s'unissent, il faut qu'il passe, je veux dire, par la bouche, me paraît être une métaphore de quelque chose, en fait, qui est beaucoup plus vaste, au niveau de toutes les sensations, et qui permet de mettre effectivement en lien tout ce qui est du domaine du cutané, du visuel, en fait, etc. Donc un organisateur, est-ce qu'il n'y aurait pas un organisateur central, qui justement ne peut pas fonctionner ou ne pas fonctionner selon les enfants, mais aussi selon, effectivement, la jeunesse que vous avez décrite. Je veux dire simplement, est-ce que au niveau donc, de la qualité primitive, au niveau de la bouche, c'est pas la base même d'une organisation qui permet de faire le lien entre tous les stimuli visuels, auditifs, sensoriels, etc., de la même façon donc, que Bullinger l'a montré pour les deux parties du corps où c'est obligé de passer par la bouche.
Je crois que le modèle que nous propose Melzer semble intéressant par rapport à ta question. C'est-à-dire, quand il parle d'attraction consensuelle, au sens non pas politique, mais consensorielle maximum, il prend la situation du nourrissage, par exemple, pour dire qu'à ce moment-là, il y a une sorte d'équation sans doute entre éthique et sensorialité sur le mode de ce qui se passe pour la bouche qui suce le sein maternel. Donc, même je suis assez intéressé par cette manière d'opérer en fond une sorte de généralisation à partir du système qui se passe au niveau de la bouche, c'est un peu ça.
Juste une toute petite, je trouve qu'on oublie qu'il y a deux bouches dans l'affaire.
Il y a la bouche du bébé et la bouche de l'autre. Et que peut-être dans la boucle, dans le retour des boucles, ce qui est très important, c'est de penser le plaisir de celui qui s'occupe du bébé, c'est déjà dans Freud, ça, dans la notion, c'est la seule fois que Freud utilise le mot sujet, subjekt, et il l'utilise 8 fois, c'est dans Pulsion et ses destins, quand il parle de la passivation pulsionnelle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est la pulsion de l'autre qui est en jeu. Il y a la bouche de l'autre. Je sais très bien, du coup d'ailleurs, j'ai nettoyé les doigts du bébé, mais je ne peux pas refuser au bébé de goûter ses petits doigts à lui. Cette boucle doit passer par le plaisir de l'autre. Quand tout va bien, les mamans font ça tout le temps. Les bébés donnent les petits doigts et les mamans font. Elles ne sont pas, elles disent pas, c'est ma bouche. Non, elles ne font pas de la pédagogie. Et je crois que le passage par le plaisir de l'autre, par la pulsion de l'autre, c'est peut-être le petit détail qu'on pourrait rajouter. Voilà.
Pour moi, c'est élémentaire, cette histoire qui joue la pulsion orale entre les deux, c'est-à-dire le plaisir de dévorer l'autre et d'être dévoré. Alors ça, c'est la vie pulsionnelle qui s'intrigue complètement avec tout ce développement dont on vient de parler. C'est même essentiel. Mais par rapport à ce que disait monsieur tout à l'heure, il me semble qu'on a beaucoup parlé de cette expérience première, basique, du rassemblement des sensorialités et de la commodalité sensorielle qui en sort. Mais c'est surtout l'expérience de, je reprends les termes de Frances Leslie, de la grappe de sensations qui est avec le regard, chez le bébé qui n'est pas aveugle, bien sûr, et dans notre culture, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais qu'en est-il des cultures qui ne donnent pas l'œil
Il y a des cultures qui vont donc par l'œil et tout va passer par le dialogue tonique, tonico-émotionnel en gros. Mais autrement, c'est, il y a ce moment de rassemblement et qui est reconnu par les neurophysiologistes comme étant aussi à la base de tout ce qui va se développer ensuite. Et sinon, il y a des tendances au démantèlement, enfin, il y a ce qu'on connaît dans les psychopathologies qui viennent. Mais ce premier rassemblement est essentiel pour faire sentir l'unité, déjà une espèce d'unité du corps, de ce qui est ressenti du corps à ce moment-là. C'est un petit peu ça.
Dernière question avant la pause.
C'est juste un petit commentaire, une question en fait technique. Et je me demandais, donc Bernard, tu as fait appel un peu à un regard pythérien sur lequel je suis moi sur un pied et d'autres sont plus engagés que moi là-dedans. Je suis assez dérangée par l'utilisation, Marie-Christine, de ces systématiques, de ces coussins pour donner l'entourance. Et je me demandais ce que vous pouviez en penser. Moi, personnellement, je n'utilisais pas ça du tout dans ma consultation, mais j'avais une table allongée qui était très haute et qui permettait que le bébé soit dans une position de soutien très confortable, avec la possibilité de jouer de sa motricité, et que la maman soit confortablement debout, à l'appui sur la table allongée, en contact direct. Et il me semblait voir dans la position de ce bébé que tu nous as montré, quelque chose qui est un peu tordu, qui empêche un regard, à mon sens, direct entre la maman et le bébé. Et de même, assis sur le tapis, la maman, on les voit se débrouiller très bien, et bien sûr, ils se sont débrouillés très bien avec ton aide, mais j'aurais un peu tendance à poser la question perfide de deux, ils se sont débrouillés très bien avec ton aide et malgré le matériel. Parce qu'on voit la maman sur le côté, le bébé se tournant sur le côté, dans les deuxièmes séquences, et je trouve que c'est inutile. On peut proposer à la maman une position confortable où elle sera facilement en contact visuel direct avec son bébé, et où l'entourance sur la table allongée, par exemple, sera proposée par les bras de la mère. Voilà. Et je crois que si on est à ce moment-là, à côté, en commentant cette situation, on a quelque chose de plus direct. Et je souligne ça. Peut-être que c'est une facilitation au départ, mais je pense qu'il y a quelque chose de notre époque qui délègue, avec les formidables outils de périculture qu'on a, qui délègue une fonction parentale à des objets. Et je pense là à tous les parents qui n'ont pas la chance d'avoir un thérapeute à côté d'eux pour contredire l'effet pervers de certains objets. J'emploie un peu des gros mots, mais dans le fond, c'est quand même un peu ce que
je c'est les boulangers qui ont installé ça dans les bureaux des psychanalystes.
Mais ça s'utilise sur une heure, on utilise 10 minutes.
D'accord.
J'ai montré là, pour parler d'entourance sur une heure, c'est au moment du change général, on utilise 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas une heure.
La dernière avant la pause.
Donc moi je suis Annick Boulu, je suis l'ostéopathe traitée de petit Enrico. Mais donc à chaque fois qu'on présente les bébés, j'ai l'impression d'en comprendre un petit bout de plus. Et vraiment, encore une fois, c'est quand vous avez parlé donc du moment de rassemblement. Donc moi, j'ai suivi le petit Enrico avant qu'il voit Madame Lazné, parce qu'il est arrivé un accident périnatal, il s'était démis la mâchoire, donc il ne pouvait pas du tout téter. Et donc les médecins pensaient qu'il avait aussi, il avait en plus une question de frein de langue. Il est arrivé une histoire pour dire qu'il a été opéré avec sans anesthésie, c'était un truc très traumatique. Donc, en tout début, donc avant qu'il commence les soins avec Mme Lazenic, il y avait eu toute une question de douleur et une question de difficulté d'allaitement. Mais que moi, j'avais perçu dans un... En fait, j'avais pas fait le lien avec sa difficulté de rassemblement à ce moment-là de tout son corps. Est-ce que quand vous avez dit donc le moment de l'allaitement, ça permet un moment de rassemblement aussi au-delà de juste la question orale. Voilà, c'est pour ajouter ça.
Voilà, merci beaucoup. Et donc on va faire la pause, on se rassemble.